Bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur votre radio, une rétrospective qui va tourner autour du dossier Mécréco. Cette institution de microfinance est mise sous administration de la Banque Centrale du Congo suite à la crise de liquidité qu'elle traverse maintenant, crise de liquidité consécutive à la mauvaise gestion des dirigeants. Une autre actualité de la semaine est la publication le 25 octobre du rapport Doing Business 2017. La RDC est classée 48e sur 53 économies africaines et au classement général, elle est 184e sur 190 pays évalués. Ceci est une régression par rapport à 2016 où le pays a occupé la même position, c'est-à-dire 184e position, alors qu'il s'agissait de 189 pays évalués. Et dans cette émission, nous allons recevoir le professeur Moussampa, professeur à l'université officielle de Mbujimaï, et avec lui nous allons parler de la comptabilité générale OADA, outil pratique de gestion qu'il vient de publier. Voilà messieurs et dames pour les grandes articulations de cette émission. Je vous salue et vous souhaite la bienvenue à cette émission.
Panorama économique, le dossier.
Merci de nous écouter partout à travers la RDC, sur la fréquence FM et sur la toile www.radioocapi.net. Notre premier dossier de la semaine nous conduit d'abord à Goma. Nous l'avions appris lundi, la mutuelle d'épargne de crédit Mécréco est tombée après la BIAC dans une situation très critique pouvant déboucher à une cessation d'activité. Dans sa correspondance du 17 octobre 2016 adressée au vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, et dont une copie est parvenue à Radio Okapi, la haute direction de la Banque Centrale du Congo a demandé une répression pénale contre les administrateurs et gérants de la mutuelle d'épargne de crédit du Congo. Mais déjà, ce même lundi, les membres de la mutuelle d'épargne et de crédit de Goma, la Mécrigo, ont pris d'assaut le bureau de cette institution financière après une semaine de fermeture. La plupart étaient venus retirer leurs épargnes malgré l'appel au calme leur lancé par les responsables de cette institution de microfinance. C'est ce que nous dit Denise Loukesso pour le rappel de fait de ce lundi.
On a confiance. Instabilité faciote sur les plans microfinance, monétaire, économique faciote.
Ils étaient des dizaines de membres à prendre d'assaut dès 8h ce lundi les bureaux de la Mécrégo au centre-ville. Tous sont venus pour une seule opération, les retraits de leurs épargnes. Une fois à l'intérieur, aucun guichet sur les 5 n'était fonctionnel. La déception et la crainte de perdre leurs épargnes pouvaient se lire sur leur visage. C'est le cas de ces clients.
Je viens retirer mon argent. Tous les guichets sont fermés. Ça annonce déjà que les choses ne marchent pas bien. En RDC, il n'y a pas de sécurité pour l'épargne. Plus de confiance. C'est vraiment une déception. Mieux vaut garder son argent à la maison ou épargner dans un pays plus sécurisé.
D'autres se disent optimistes et croient à la promesse qui leur a été faite.
Nous avions déjà confiance puisqu'on nous avait dit que ça sera une banque populaire. Nous avons placé nos épargnes. Au regard de la situation depuis la semaine passée, vraiment nous sommes découragés. Mais nous croyons à la promesse qui nous a été faite et que nous serons servis. On nous a promis que dans 48 heures, nous pouvons passer et voir comment les services vont fonctionner. Mais notre crainte est qu'on ne nous a pas dit s'il y aura un mouvement de retrait. J'espère toujours. Ils ne peuvent pas nous dire qu'ils n'ont pas d'argent. Nous savons que c'est la Banque centrale qui garde notre argent, qui termine leur contrôle et qui nous donne notre argent. Sinon, ça sera une catastrophe. Ils vont enterrer toute la population de la ville de Goma.
Aucune communication jusqu'ici du côté des responsables de la Mécrégo. La DCC, dans une correspondance du 17 octobre au vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité, avait demandé des mesures conservatoires à l'encontre des administrateurs et gérants de la Mécrégo. Dans cette lettre, la DCC souligne que cette situation qui traverse la Mécrégo peut incessamment déboucher sur une cessation d'activité ou sa faillite. C'est pourquoi elle a introduit une plainte auprès du procureur général de la République dans laquelle elle a sollicité la répression pénale ainsi que la mise sous séquestre des biens et avoirs des administrateurs et dirigeants concernés et ceux de leurs sociétés apparentées. La BCC dit par ailleurs poursuivre son travail d'évaluation de la Mécrégo. Goma, Denise Louquet sur Radio Okapi.
Et puis mardi, à Kinshasa, votre magazine Éco d'économie a posé la question à la Banque centrale du Congo. La mise sous administration a été confirmée et le directeur général de la Banque centrale du Congo en charge de la politique monétaire et des opérations bancaires explique cette décision. Jean-Louis Kayembe était interrogé par Nadine Foulansemba.
Cette décision a été motivée par certains déséquilibres profonds qui ont été observés et caractérisés par une crise de liquidité. Et c'est en fait cette crise de liquidité qui a conduit pratiquement à cette structure d'arriver à une situation où elle ne pouvait plus honorer le retrait au niveau de guichet. Également, il y a un autre facteur, c'est que ces différentes structures étaient sous surveillance rapprochée depuis quelques mois au niveau de la Banque centrale et les plans de redressement qui ont été mis en place n'ont pas été exécutés de manière satisfaisante, raison pour laquelle cette décision de la Banque centrale a été prise.
Mais cela dit, qu'est-ce qui était à la base de ces déséquilibres profonds que vous avez observés à la Mecreco?
Les déséquilibres sont liés notamment à des problèmes de gestion. Les dirigeants prennent beaucoup de risques, notamment dans l'octroi des crédits et notamment dans des investissements qui ne rapportent pas beaucoup. Et donc, in fine, ils arrivent à une situation où ils accumulent des pertes et ces pertes viennent affecter négativement les fonds propres et cela débouche à des situations de manque de solvabilité.
Si à Goma et à Kinshasa, la Mekrikin et Mekrigo sont sous administration de la Banque centrale du Congo, en tout cas, la mutuelle d'épargne et de crédit de Bounia Mekribou n'est pas concernée par la mesure de sous-tutelle de la Banque centrale du Congo. C'est son gérant qui l'a déclaré mercredi à Bounia dans une conférence de presse. Il a affirmé que son agence est une coopérative agréée par la Banque centrale du Congo et qui jouit d'une autonomie de gestion des ressources financières et humaines. Il a rassuré la population de Bounia et ses clients que Mekribou n'a donc pas de problème de liquidité et que ses activités se déroulent normalement.
Panorama économique. Chaque samedi à 12h30, Radio Okapi vous offre le survol de toute l'actualité économique de la semaine dans Panorama économique. La vie de marché, les développements des entreprises, l'impact des décisions diverses sur la vie économique, c'est Panorama économique.
Les autres temps forts de la semaine à présent, mardi, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a déposé à l'Assemblée nationale le projet de budget 2017. C'est un projet chiffré à hauteur de 5 700 000 000 de francs congolais, soit 4 500 000 000 de dollars américains. Le Premier ministre a ajouté que ce budget, comparativement à celui de 2016, est en diminution de 15%, une diminution que Matata Ponyo justifie par la chute des cours des matières premières sur le marché mondial, ramenant de 6 à 5 milliards de dollars américains le budget congolais. Mercredi à Lubumbashi, c'était l'ouverture de la foire d'exposition de produits zambiens. Au total, une vingtaine d'entreprises zambiennes ont exposé leurs produits au siège provincial de la Fédération des entreprises du Congo. Il s'agissait des habits, des produits alimentaires, des appareils électroménagers ainsi que de l'acide sulfurique. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le maire adjoint de Lubumbashi et cette activité de 3 jours était organisée dans le cadre des échanges commerciaux entre les hommes d'affaires zambiens et congolais. Doing Business 2017, la Banque mondiale a publié mardi 25 octobre son rapport dans lequel la RDC est classée 48e sur 53 économies en Afrique. Mais pour cette étude 2017, Doing Business a évalué 47 pays africains sur l'amélioration du cadre des affaires. L'étude a révélé par ailleurs que ces pays ont mis en œuvre 80 réformes entre 2015 et 2016. C'est une performance qui représente une hausse de 14% par rapport à Doing Business 2016. Quittons Kinshasa pour la province du Bas-Ouélé où tous les magasins du centre commercial Yakba. Yakba, c'est une localité du territoire de Bondo située à plus de 500 km au nord de Kisangani. Les boutiques ont été scellées par la direction générale des impôts. À l'origine de cette situation, le refus des opérateurs économiques des Yakba de payer l'impôt professionnel sur le revenu. Pourquoi ces opérateurs ont-ils refusé de payer l'IPR et comment a réagi l'autorité locale face à cette attitude des opérateurs économiques? Les détails avec Anselme Massois.
Pour ces opérateurs économiques, le paiement de l'impôt professionnel sur revenu ne se justifie plus en ce moment par le fait qu'il est déjà abrogé depuis 2013. Douté Nzovoli, président FEC Yakba. L'impôt professionnel sur revenu depuis 2013, le président de la République et son ministre des Finances l'ont abrogé dans le journal officiel de la RD Congo. Alors nous demandons au cadre de la DGI de nous donner la signification du mot abrogé. Ils ne nous répondent pas. Si nous regardons dans les dictionnaires, abroger veut dire annuler ou abolir. Ils nous obligent de payer de force quelque chose qui n'existe plus. C'est depuis mars dernier que nous sommes contraints de payer cette taxe et nous n'allons pas nous incliner jusqu'à ce que nous soyons bien fixés. Réagissant à ces refus, l'administrateur du territoire assistant chargé de l'économie et finances déclare que ces opérateurs interprètent mal la loi et méritent une sanction quant à ceux. Dieudonné Lissouma.
Ils disent des mensonges. Ces opérateurs économiques ne payent pas l'impôt professionnel sur le revenu IPR. Ils ne payent pas depuis le début de cette année. Et le procureur de la République nous a instruit de se laisser boutir. Dans le journal officiel qu'ils soutiennent, l'IPR n'est pas abrogé.
Une autre réunion entre la DGI et les opérateurs économiques a été convoquée hier mardi matin par l'autorité territoriale pour essayer de résoudre la crise. Kisangani, Anselme Massoua, Écho d'économie.
À l'Équateur, les opérateurs économiques ont déploré la rupture du trafic sur la route nationale numéro 8, seule voie d'approvisionnement de la Chuapa par route. Pour cause, la panne intervenue depuis bientôt un mois sur le bac Ingende qui relie les deux rives de la Ruki à 190 km en amont de Mbandaka. Conséquence de cette rupture de trafic du bac Ingende, paralysie totale des activités socio-économiques au détriment des transports et paysans des deux provinces voisines. C'est un reportage signé Paul Richard Malengela.
Parmi les conséquences, le président du conseil provincial de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Équateur, a évoqué le poussement des produits faute de circulation des véhicules. Il a aussi paralysé du secteur du transport ainsi que les frais supplémentaires de transbordement que certains passagers doivent payer avant de joindre l'autre rive par pirogue. Teddy Molondo.
Quand il y a échange entre deux provinces, je crois que les régies s'en profitent pour piquer les intérêts des opérateurs économiques. Ils ne font plus de recettes et puis voilà que quand les histoires périssent, vous vous rendez compte combien de fois ça va amener les opérateurs économiques au déficit pour les bénéfices aussi, pour les capitaux qui seront déjà en diminution. Tout ce que nous faisons comme transbordement, ça pose vraiment problème. Il y a un problème de manutention qui se pose et puis voilà que ça dérange. Ça va au-delà de ce qu'on pensait et faire comme les coûts d'achat.
Désormais, plusieurs paysans sont obligés d'embarquer à bord des convois de fortune avec tous les risques de naufrage. Mais c'est depuis le 29 septembre dernier que le bac d'Ingende est tombé en panne, a reconnu le directeur provincial de l'Office des routes Grand Équateur. Pierre Moanimi dit attendre une enveloppe de 4 500 $, montant sollicité auprès du gouvernorat de l'Équateur pour sa remise en service. Enfin, cette situation empêche aussi le ravitaillement de la nouvelle province de la Chuapa par route, y compris les ONG humanitaires qui devaient aller intervenir le long de la nationale numéro 8 vers Bolomba et Boindé. Mbandaka, Paul Chamalingela, Écho d'économie.
À Matadi, les travailleurs des Indo-Pakistanais de cette ville portuaire ont exigé cette semaine le départ de deux sujets libanais de la ville. Ils les accusent de s'illustrer par des injures publiques à répétition. Ces agents vendeurs des magasins des Libanais de Matadi l'ont fait savoir dans un mémorandum adressé jeudi à leur patron, aux autorités urbaines et aux services de sécurité de la ville de Matadi. Outre cette demande, ces travailleurs exigent que les nouveaux engagés signent des contrats de travail en bonne et due forme, ce qui n'est pas le cas actuellement, soutiennent-ils. Et selon eux, ceci va en violation du code du travail en vigueur en RDC. Une autre plainte cette semaine, c'est celle d'une dizaine d'agents œuvrant pour le compte du Programme national de protection sociale et de la réforme de la sécurité sociale, le programme PROSECU. Ces agents se disent victimes de licenciements abusif et massif et qui n'a respecté aucune procédure. Le Prosecu est un programme du ministère de l'Emploi, Travail et de la Prévoyance sociale. Ils accusent pour cela le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, Travail et de la Prévoyance sociale, selon une décision de Willy Makiachi, les relevant de leur poste au sein du Prosecu pour absence prolongée. C'est désormais sans emploi ne reconnaissent pas avoir été le moindre instant absent de leur poste. Suivez plutôt cet entretien que nous avons eu avec l'un d'eux, c'était jeudi. Jonathan Moudichaï nous explique ce qui s'est passé au Prosecu.
Nous avons remarqué subitement un remplacement au niveau du programme avec une décision qui serait prise et sur base d'un rapport qui aurait été donné au vice-premier ministre, disant que nous avons été d'une certaine manière déserteurs, à absence prolongée, et nous ne travaillons pas. Et sur base de cela, il a remplacé, il a pris un nouvel arrêté, nominant d'autres personnes à nos places. Et c'est sur base de cela que nous avons dit non. Par rapport à ce qui a été fait, il y a un procédé, il y a une procédure qui doit être respectée. Procédure que lui-même, le vice-premier ministre, arrivant à son poste, avait fait parvenir à tout le programme par une note circulaire, nous spécifiant la procédure à suivre en vue d'un remplacement.
Elle dit quoi cette procédure?
La procédure nous dit exactement que...
Pour un agent qui s'est absenté pendant plusieurs jours, qu'est-ce que la procédure dit?
La procédure dit qu'un agent qui a été constaté absent doit être convoqué, on doit ouvrir une action disciplinaire. L'agent a aussi, après qu'il ait été constaté qu'il était absent, il a droit à avoir une défense, parce qu'il peut être absent sur base d'une maladie pour un cas assez spécifique. Donc c'est par rapport à ce constat-là. Ouvrir un dossier, l'agent se défend et il a même droit à deux témoins.
Il n'en a pas été question pour vous?
Pour aucun d'entre nous, et on est nombreux dans ce cas.
Combien?
Dans le programme qui nous concerne, dans lequel nous travaillons, il y a eu exactement 19 remplacements et 16 remplacements sur vice de procédure.
Et parmi lesquels votre cas?
Parmi lesquels nous nous trouvons.
Mais vous ne reconnaissez pas avoir été absent pendant une longue période?
Le procédé dit que les absences doivent être constatées, la période allant tout avec une moyenne d'au moins de 30 jours d'absence. Il n'y a aucun agent, en tout cas à ma connaissance, parmi les collègues qui sont avec nous dans le même cas, qui ait fait autant de temps sans se présenter au niveau du ministère.
Vous avez été toujours là?
On a toujours été présents. Il y a des listes de présence qui peuvent le constater.
Mais la décision du ministre, selon ce que vous avez dit, est une suite logique au rapport que lui a adressé le coordonnateur du projet.
C'est ce que nous avons lu dans l'arrêté, la décision qu'il a eu à prendre. Il l'a écrit dans la décision. Le fait de l'avoir écrit ne dit pas forcément que c'est l'état de fait. Il l'a écrit parce qu'il devait prendre une décision. Comme la seule ouverture qui permette des changements sont celles que nous avons édictées ici, donc absence prolongée, désertion, maladie professionnelle, cas de décès. Comme je l'ai dit, nous avons eu 19 remplacements, donc parce que nous avons eu une maladie prolongée et deux cas de décès. Donc c'est normal dans le programme qu'il y ait eu au moins 3 changements. Mais en ce qui concerne les autres changements, bon, il faudrait qu'il nous montre au moins les rapports sur lesquels il s'est appuyé. Et au cas où on serait absent, la procédure voudrait que nous soyons entendus avant que l'on puisse nous mettre dehors.
Donc, avant cela, il n'y avait pas eu d'avertissement.
Nous revenons et nous insistons énergiquement. La procédure, en ce cas, a été totalement bafouée.
Au ministère du Travail?
Bafouée.
Vous visez quoi par l'action que vous menez?
Nous visons deux choses. Premièrement, une annulation de cette décision pour vice des procédures, excès de pouvoir et favoritisme. Et deuxièmement, nous visons une réintégration à notre poste de travail, parce que nous le méritons.
En tout cas, nous avons tenté, mais nous n'avons pas réussi, le jeudi et le vendredi, à entrer en contact avec la vice-primature en charge de l'emploi et de la prévoyance sociale. La même chose avec le programme Prosecu. Nous espérons qu'ils vont se réveiller et donner de la voix pour donner des explications à ces accusations qui sont portées à leur endroit. Et voilà ce qui va nous conduire à prendre la deuxième partie de Panorama économique sur Radio Capi. Merci de nous rester fidèles sur Radio Okapi et bienvenue à cette deuxième partie de Panorama économique qui reçoit deux invités. Je reçois d'abord le professeur Moussampa. Bonjour professeur.
Bonjour monsieur le journaliste.
Et à ses côtés, son assistant monsieur Katambay. Bonjour.
Bonjour monsieur.
Chers auditeurs, voilà, avec ces deux invités, nous allons nous entretenir. Professeur, vous venez de publier un ouvrage scientifique sur la comptabilité générale de l'OADA. Et la particularité que nous avons vue sur cet ouvrage, c'est guide pratique. Je crois que c'est ça.
Tout à fait.
Voilà. Professeur, nous savons que la RDC est pays membre de l'OADA, cette organisation pour harmoniser les droits des affaires en Afrique. La RDC est pays membre, mais lorsque la RDC s'apprêtait à entrer dans l'OADA, il y a eu beaucoup d'ouvrages publiés, il y a eu beaucoup de formations des praticiens de la comptabilité. Cela ne vous a pas suffi, il y a toujours eu, vous êtes resté sur votre soif, ce qui vous a poussé à publier aujourd'hui cet ouvrage-là.
Tout à fait.
Oui, présentez-nous cet ouvrage que vous avez publié, vous et votre assistant qui est à votre côté.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Eh bien, nous sommes partis d'un constat, sur le terrain. C'est que nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des besoins à satisfaire, que malgré la formation assurée par le CPCC, avant l'arrivée de l'OADA dans notre pays, eh bien, cela n'a pas suffi. En plus, lorsque nous regardons la comptabilité de l'OADA, qui est un événement tout à fait nouveau dans notre pays, un nouveau référentiel, nous nous rendons compte que ce référentiel a besoin d'être complété en ce qui nous concerne ici dans le pays par des apports spécifiques. Nous avons constaté, par exemple, que la formation du coût, n'est-ce pas, d'achat des marchandises, des matières, ainsi de suite, n'était pas assez expliquée dans d'autres ouvrages
qui ont été déjà publiés,
que nous avons consultés et qui sont en circulation. Il y avait cette lacune-là qu'il fallait compléter. Et les gestionnaires avaient du mal, justement, à résoudre cette difficulté. Ça, c'est une première constatation. Nous nous sommes aussi rendus compte que la détermination du résultat en fin d'exercice posait aussi des problèmes.
Parce que déjà au départ, la détermination du coût
d'achat
voilà, n'était pas bien déterminée.
Et par voie de conséquence, on ne peut pas non plus déterminer correctement le résultat en fin d'exercice. Donc, nous avons insisté sur ce point-là avec des schémas assez élégants, assez clairs, et qui montre exactement comment il faut contourner, comment il faut résoudre ces difficultés-là. En plus, l'ouvrage est allé plus loin. L'ouvrage a traité, par exemple, des affaires en commission, ce qu'on ne trouvait pas facilement dans d'autres ouvrages de comptabilité générale. Nous avons, quoi que mon assistant va me compléter, nous avons aussi parlé des travaux de fin d'exercice, de manière aussi claire et nette.
De fin d'exercice, ça veut dire pour ceux qui ne sont pas le métier, dans la profession. Ouais.
Merci beaucoup, nous parlons d'exercice comptable.
Oh, voilà.
L'exercice comptable, c'est celui qui part du 1er janvier au 31 décembre. Voilà. C'est ça. Et à la fin de cet exercice-là, les entreprises ont l'obligation, je dis bien l'obligation, de présenter leurs états financiers, c'est-à-dire le bilan, le compte de résultat, les TFR, etc., etc. Donc, la présentation de ces états financiers est un travail fastidieux pour les entreprises. Donc, nous nous avons démontré tout cela assez clairement dans cet ouvrage et ça facilite la tâche et pour les élèves, et pour les étudiants, et pour les enseignants qui, jusque-là, n'ont pas d'ouvrage spécifique en comptabilité OADA.
Disons que depuis que la RDC est membre, fait partie de l'OADA, l'ancienne comptabilité qu'on nous a appris aux humanités, ce programme-là n'est plus d'actualité.
Absolument pas. Vous savez, du fait d'adhérer à un traité, cela vous oblige de renoncer à une certaine partie de votre souveraineté.
Dans la comptabilité selon le
notre
plan...
Notre comptabilité... Et c'est que nous appelions un plan comptable général congolais
oui.
Est tombé, il est devenu caduque. Et nous sommes obligés.
Il faut se conformer maintenant au plan comptable OADA.
Exactement.
Et c'est ce qui doit être enseigné dans les universités, dans les
écoles. Déjà au secondaire.
Oui.
Dès l'école secondaire. Mm-hmm. Et maintenant, l'OADA est en application. Mais les enfants aux écoles secondaires ont des difficultés. Les enseignants ne savent pas par où commencer, voyez-vous.
Et vous pensez que l'ouvrage que vous avez publié, que vous venez de publier,
oui,
répond aux besoins de l'enseignement au niveau des humanités déjà?
Tout à fait. Mm-hmm. Je crois que le ministère, le PSP, a maintenant un outil qu'il peut facilement mettre à la disposition des enseignants des écoles secondaires.
Donc, c'est qu'il y avait un besoin réel et que, scientifiquement, ce ouvrage vient répondre à un besoin. Vous l'avez exprimé et on le trouve où, cet ouvrage? Comment se le procurer?
Cet ouvrage, pour l'instant, c'est d'abord Médias Paul, disons, les filles de Saint-Paul, la librairie des filles de Saint-Paul. et ensuite d'autres points de vente seront par exemple la procure Sainte-Anne, d'autres points encore que nous allons explorer, que nous annoncerons, n'est-ce pas, au public.
Et il peut coûter combien? Voyez-vous,
c'est un ouvrage de plus de 250 pages. Nous sommes modestes. Nous avons proposé le prix de $25 seulement.
250 pages à $25
seulement.
Alors, je vais demander à votre assistant qui a aussi contribué à la réalisation de cet ouvrage.
Oui.
Monsieur Katambay, ouais, je reviens à vous. À part ce que le professeur a dit, est-ce que vous avez un autre point sur lequel insister
évidemment.
Et qui se trouve dans cet ouvrage?
Évidemment.
Oh, voilà.
D'ailleurs, comme je suis en train de compléter le professeur, vous trouverez que l'ouvrage que nous venons d'écrire est non seulement une réponse opportune à un besoin impérieux de vulgarisation du système comptable OADA dans notre pays et ailleurs, dans d'autres pays qui sont aussi dans notre
dans l'espace OADA.
Ouais. Mais il y a aussi une réponse satisfaisante, comme le professeur venait de le dire, une réponse satisfaisante à notre inquiétude des quelques mois, voire des quelques années, lorsqu'on exploitait beaucoup d'ouvrages. Ce qu'on attendait de trouver, c'était parfois ce qu'on n'a pas vu. Par exemple, le professeur venait tout à l'heure de parler de la formation, le processus de formation du coût d'achat. Mais le coût d'achat, c'est le point focal de toute comptabilité. Donc, toute comptabilité analytique des gestions est focalisée sur le coût d'achat. Parce que c'est à partir de là qu'on est dans la notion de la hiérarchisation de coûts. On commence d'abord par la notion du coût d'achat jusqu'à former la valeur finale qui est le coût de revient. Mais si ce point focal est obscurci, comment peut-on tenir la comptabilité? C'est ainsi que...
Peut-être pour ne pas rentrer tout de suite dans le cours de comptabilité, pouvez-vous nous dire brièvement quels sont les éléments qui entrent dans ce coût d'achat de produits?
Exactement. Le coût d'achat tel qu'il est là, il est composé d'abord du prix d'achat.
De la marchandise.
De la marchandise ou de la matière. Et plus les frais accessoires d'achat. Alors, dans notre ouvrage, nous avons essayé de présenter un processus rationnel de formation de ce coût d'achat.
Donc, toutes les dépenses qui sont faites à l'occasion de l'achat d'un produit.
De l'achat doivent être intégrées à la formation du coût d'achat. Et à partir de là, vous avez le coût de la marchandise auquel vous allez stocker cette marchandise. Et lorsque vous voulez faire sortir cette marchandise pour la vente, vous la valorisez également à ce coût. Mais si ce coût n'est pas déterminé, comment allez-vous valoriser les marchandises? Comment allez-vous tenir la comptabilité des affaires à la commission si ce coût n'est pas connu? Comment allez-vous déterminer le coût de revient et le prix de vente conséquent? Donc c'était une difficulté très grande par rapport à ce qu'il y a une faille que nous avons retrouvée. Le professeur venait aussi de parler des travaux de fin d'exercice. Vous savez, donc en vertu du principe mondial de l'indépendance des exercices comptables, vous savez, chaque année doit supporter sa propre charge. Alors, en vertu de ce principe-là, lorsqu'il y a une charge, par exemple, supportée à cheval sur 2 années, on doit chercher seulement à prendre la quote-part de l'année 1. L'année N plus 1, on doit aussi séparer comme ça. Alors, nous avons essayé de multiplier des exercices sur les travaux de fin d'exercice qui sont vraiment impératifs dans toutes les entreprises. Les affaires à la commission, comme le professeur venait de parler, nous avons fait beaucoup d'exercices et même une autre partie comme les comptes de résultats. En fait, l'ouvrage répond vraiment, il nous satisfait par rapport aux lacunes que nous avons vraiment trouvées dans tous les ouvrages qui ont existé antérieurement.
Et je reviens à vous, monsieur le professeur Moustampa, et oui. Je ne l'ai pas dit au début, vous êtes professeur à l'université de Mbujimayi. Vous êtes professeur à l'université officielle de Mbujimayi.
Tout à fait.
Comment cet ouvrage a été reçu d'abord dans votre propre université?
Oui, justement, dans mon université, ils reçoivent l'ouvrage en même temps que le reste du public. C'est-à-dire, j'attends maintenant des réactions lorsque ils seront en possession de l'ouvrage. Dès mon retour en Mbujimayi, j'amène l'ouvrage avec moi.
Et vous pensez que le besoin, vraiment, il est exhaustif, il n'y aura pas un autre besoin?
Je suis convaincu que nous ne serons pas contredits. Personne ne va nous contredire. Nous sommes dans le bon.
Et vous avez pris combien de temps pour réaliser ce travail?
Ça nous a pris toute une année au moins. Toute une année au moins.
Donc c'était un travail fouillé.
Effectivement. Parce que c'est fondé aussi sur nos propres expériences en tant qu'enseignants. Voyez-vous? Donc, nous sommes attentifs. Nous avons suivi la formation sur le WADA, comme vous veniez de le dire ici. Et on a été formés nous-mêmes en WADA par le CPCC, d'abord au Mbujimayi et puis ici à Kinshasa. Donc on a suivi tous ces séminaires-là et nous avons plein de littérature, n'est-ce pas, sur la comptabilité OADA, sur le site OADA et puis sur les publications de notre CPCC, c'est-à-dire Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo, CPCC.
Professeur Moustampa, oui. Professeur à l'Université officielle de Mbujimayi et l'assistant Katambaï, en tout cas, tout le plaisir était pour nous de vous recevoir dans ce studio de Radio Okapi et échanger avec vous au sujet de cet ouvrage que vous venez de publier. Bon vent, bonne vie à ce nouveau ouvrage qui va désormais faire partie de nos cartables et dans nos bibliothèques. En tout cas, merci d'être passé au studio de Radio Okapi.
Merci beaucoup, c'est à nous de vous remercier pour avoir accepté de nous recevoir dans votre studio de Radio Okapi. Merci beaucoup.
Merci, monsieur.
Et c'est la fin de Panorama économique sur Radio Okapi. Très chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Je suis Daniel Tambizoni. Je vous souhaite de passer une très belle fin de semaine en compagnie de votre radio.